Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Des clés pour vivre, un deuxième entretien, deuxième rencontre, et je vous salue, frère Éric Bidot, bonjour.
Bonjour,
merci de votre fidélité. Nous sommes pas très loin de ce lieu de la grotte Massabielle où nous enregistrons pendant cette période du grand pèlerinage du Rosaire. Donc au programme, c'est bien sûr les frères Capucins, les saints Capucins aussi, Saint François d'Assise. Vous évoquiez cette prédication aussi de la croix, cette prédication de la croix est présente dans ce charisme bien particulier aussi des Capucins, frère Éric Bidot.
Ben, c'est-à-dire
sans la croix, pas de prédication.
C'est-à-dire que la croix, c'est le lieu de la pauvreté par excellence. C'est le lieu où finalement Jésus se remet tout entier, remet tout ce qu'il est, remet toute l'humanité. C'est le lieu du pardon. Cette parole de Jésus sur la croix, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Donc finalement, c'est comme le concentré radical et existentiel de toutes nos vies, parce que nous aussi, nous passerons par la mort. Et quand saint François en parle dans le Cantique des Créatures, il dit « Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur, la mort corporelle ». Et si François peut le dire, c'est parce qu'il a compris tout au long de sa vie quel est le lieu de la pauvreté par excellence. Je dis souvent ce proverbe « Il ne sert à rien d'être le plus riche du cimetière, parce qu'on n'emporte rien ». On n'est plus dans l'avoir au moment de la mort, on est dans l'être. Et c'est pour ça que souvent dans la tradition spirituelle, on a insisté sur la préparation, vous savez, à la bonne mort, la préparation de la mort, des thèmes dont on parle plus du tout, parce que on a surtout une approche technique, de soins, de défis, de... Mais souvent on oublie que notre corps va vers la mort, qu'elle est, et que la mort est un lieu de passage, le lieu où nous serons les mains vides pour être... Et donc finalement le lieu d'une rencontre. Et cette rencontre, ben, elle est à la fois de tous les jours, elle passe par beaucoup de rencontres au quotidien, elle passe par la rencontre aussi du cœur avec le Seigneur qui vient lui sans cesse en nous. Et ce moment se prépare pas comme un moment fatidique, comme une espèce de guillotine, mais comme une rencontre qui n'en finit pas finalement d'être à l'œuvre.
Vous parlez de rencontres, de ce moment aussi ultime où nous devons nous préparer aussi à ce grand passage de la mort. Parmi encore, et je reviens sur cette ville de Lourdes, ce sanctuaire, les frères Capucins, vous avez un frère Capucin, il y a une très belle histoire aussi d'un frère Giacomo qui est enterré dans le cimetière de Lourdes.
Voilà.
Pour nos amis auditeurs qui viendraient ici en pèlerinage, rencontrer peut-être parmi toutes les communautés les frères Capucins, un arrêt peut-être, une belle histoire et un arrêt dans ce cimetière. Pour venir prier frère Giacomo.
Et c'est lié à la mort.
Et c'est lié
à
la mort.
Giacomo da Baldwin était un frère, un prêtre capucin d'une quarantaine d'années de Venise. Et il était malade depuis 10 ans, donc il était confesseur simplement. Il n'y avait que cela qu'il pouvait faire parce qu'il n'avait aucune énergie pour aller en prêcher à l'extérieur. Et il arrive donc en pèlerinage exténué par des dizaines d'heures de train. Et il arrive ici et il dit tout de suite « à la grotte ». Mais en fait, il meurt à la descente du train. Et il est enterré au quartier des étrangers, donc au nouveau cimetière. Et puis à sa mort, petit à petit, des foules viennent. Moi, quand je viens à Lourdes, je vais prier sur sa tombe qui est très fleurie, qui est indiquée dès l'entrée du cimetière, c'est un signe. Et des personnes passent, parfois des groupes, mais surtout des personnes une par une. Et je demande souvent « Vous venez d'où ?» Alors il y a une personne qui me dit « Je suis de Lourdes et quand je vais sur la tombe de mes parents, je m'arrête toujours sur la tombe du père Giacomo, du père Jacques. » Et puis une autre personne, elle me dit « Ça fait 25 ans que je viens à Lourdes comme hospitalier. Il y a 25 ans, on m'a dit « Va sur la tombe du père Giacomo » et j'y viens à chaque fois. » Et le père Giacomo particulièrement, et c'est important aujourd'hui, a une mission d'intercession et d'accompagnement des prêtres en difficulté. Et quand on confesse au sanctuaire, on est plusieurs capucins à recommander à des prêtres qui traversent des moments de crise, des moments de doute, des moments de remise en cause. On leur recommande souvent d'aller prier sur la tombe du père Giacomo parce que dans son ministère, il a accompagné beaucoup de prêtres finalement sur la ville où il était, donc près de Venise. Et c'est une mission d'intercession qui continue.
Quel était son rayonnement à l'époque ?
Bon, c'était le celui qu'on savait toujours disponible. Il n'y avait rien d'extraordinaire.
Hein. Un deuxième Padre Pio dans l'ordre des Capucins.
Avec sans toute la dimension, extraordinaire hein, de la vie du Padre Pio. Non, c'est très différent parce que c'est vraiment une sainteté très ordinaire de son vivant et qui a vraiment connu une efflorescence à sa mort.
Vous avez des retours aussi de certains frères prêtres.
Alors, oui.
De grâce reçue par l'intercession Giacomo.
Oui, oui. Alors, quand on envoie, quand on est au confessionnal à Lourdes et qu'on envoie sur la tombe du Père Giacomo, on ne sait pas ce qui s'est passé après. Mais une fois, j'ai emmené un groupe de prêtres de Clermont-Ferrand et de sa région. Et on a été prié dessus. Et puis, 2-3 jours après, un des prêtres m'a dit, voilà la grâce que j'avais demandée. Et elle s'est passée le soir même. C'était une toute petite chose, mais qui avait de l'importance pour sa paroisse. Et c'était un peu saisissant d'avoir ce retour si rapidement. Mais les prêtres ont besoin aussi de lieux où ils ont un frère aîné qui les comprend de l'intérieur.
Nous savons ce que l'Église traverse actuellement, une Église en crise, une Église douloureuse et des prêtres en douleur. Quel est votre regard sur cette Église en douleur et des prêtres douloureux?
Il y a beaucoup de dimensions. Hein. Il y a la dimension personnelle, c'est-à-dire comment un prêtre prend les moyens d'être en vérité, d'être conscient à la fois de sa misère et de la grâce, et de la grâce qu'il porte pour les autres, et donc chemine avec, accompagné. Puis il y a la dimension relationnelle dans l'Église, c'est-à-dire les différents ministères, la manière d'être en relation les uns avec les autres, non pas comme l'un détenteur de toutes les clés et les autres priés de suivre, mais comment chacun a un charisme dans l'Église. Moi, je me rends compte très fort dans différentes dimensions. Il suffit de relire Lumen Gentium, par exemple, hein, la grâce du laïcat, la grâce du sacerdoce ministériel, la grâce de la vie consacrée. Personne n'a le monopole de la grâce. Et la grâce, elle circule entre les différents états de vie. Et chacun rappelle aux autres une dimension que chacun nous portons, mais nous avons besoin qu'elle soit signifiée dans une forme de vie et dans un service particulier dans l'Église. Et déjà, je pense que il faut vraiment qu'on relise Lumen Gentium, il faut vraiment qu'on relise la grâce, c'est-à-dire la complémentarité des vocations comme circulant les unes vers les autres et comme l'une et l'autre rappelant une dimension. Ça me paraît vraiment très très important, et c'est sans doute une bonne occasion de se réappuyer sur ce texte conciliaire pour recomprendre qui nous sommes en Église et dans les différents services que nous rendons.
À quoi sert au fond la vie consacrée aujourd'hui pour l'Église et le monde?
La vie consacrée dans Lumen Gentium, c'est très intéressant, elle est du côté de l'appel universel à la sainteté, c'est-à-dire elle est du côté du rappel que tous nous sommes appelés à la sainteté, c'est-à-dire à vivre déjà des relations de Jésus mort et ressuscité qui instaurent des relations nouvelles dans l'humanité et avec toute la création. Et la vie consacrée, elle n'a pas le monopole de cela, mais elle est comme un éveilleur. Et c'est pour ça que aujourd'hui, des prêtres dans les différentes, je pense à Notre-Dame de Vie, par exemple, et la grâce de l'oraison, je pense à nous et une dimension d'une pauvreté, d'une simplicité de vie. Il y a aussi un tiers ordre dominicain pour les prêtres. Enfin voilà, beaucoup de prêtres cherchent aussi des spiritualités qui colorent un peu leur ministère et qui les mettent peut-être en contact finalement avec ce désir de la sainteté que chacun nous portons. Et on voit ça aussi avec des familles, avec des jeunes aussi. J'étais cet été avec de jeunes familles et des jeunes de la jeunesse franciscaine. Et on sent ce désir et cette communion à laquelle nous sommes appelés.
Donc on entend communion, fraternité, puis mouvement, circulation.
Parce que Dieu est en lui-même
tout à
cela.
Fait. Et c'est la Trinité.
Exactement.
Et c'est la Trinité.
Et c'est parce que François a contemplé vraiment la Trinité qu'il en a comme déduit cette dimension de fraternité universelle.
Et justement, je pensais à François et ce lien très fort hein, avec la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, ce mouvement aussi de François d'Assise. Frère Éric Biteau, merci de votre intervention du jour dans Des clés pour vivre. Je rappelle donc à nos amis auditeurs qui se rendraient ici, peut-être, en pèlerinage dans ce lieu marial de Lourdes. N'hésitez pas à faire un petit tour dans ce cimetière des étrangers à Lourdes et de vous recueillir près de la tombe du frère capucin Giacomo. Et peut-être pour des frères qui nous entendraient aujourd'hui, qui seraient eux-mêmes en difficulté dans le sacerdoce, un petit arrêt à Lourdes, près du frère Giacomo. Merci et à demain, frère.
À demain.